France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Flore Vasseur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous et depuis le début vous étiez là pendant la première partie de cette émission Soft Power puisque on l'a dit vous avez travaillé à New York notamment dans les années 2000, vous avez vécu ce qu'on a appelé l'explosion de la première bulle internet. Vous êtes toujours resté proche des questions du numérique, vous écrivez aujourd'hui, vous avez publié notamment Comment j'ai liquidé le siècle ou En bande organisée, vous avez surtout réalisé en 2015 un documentaire, un film qui s'appelle Meeting Snowden, où vous réunissiez Edward Snowden, Larry Lessig et Birgitta Jonsdottir, j'ai toujours peur de mal le dire, trois disons figures essentielles du combat disons pour un internet libre, et vous publiez aujourd'hui donc ce livre, Ce qu'il reste de nos vies, Ce qu'il reste de nos rêves, livre consacré à la vie, au parcours d'Aaron Swartz, il faut que je dise bien, Aaron Swartz, qui c'est? Flore Vasseur.
Mais c'est très bien que vous démarriez par Snowden, parce que je pense, et Birgitta Jonsdottir, vous l'avez très bien dit, et Larry Lessig, parce que c'est un peu le grand frère de toutes ces personnes-là. Aaron Swartz, c'est un garçon qui a disparu il y a 6 ans maintenant, à l'âge de 26 ans, et qui en fait est né avec l'Internet en 86, et j'ai envie de dire, il est mort avec.
Vous êtes en train d'aller directement vers la fin de cet entretien, mais c'est bien, c'est clair.
J'ai compris qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc il a vraiment, il est né avec cet outil quasiment qui lui a servi de jouet. Très vite, il a codé. Très vite, il s'est rendu compte qu'au-delà de la manne économique et de l'industrie qui allait se créer, on a parlé que de ça pendant 45 minutes, il a vu tout de suite l'enjeu politique en fait. Il a tout de suite vu qu'il y avait là un outil qui pouvait parachever quelque chose, je crois, qui aussi conduit toute notre évolution depuis que l'homme est homme, qui est le désir de s'élever, le désir de comprendre, le désir de partager son savoir, le désir de communiquer, le désir d'évoluer, en fait, de grandir en conscience, j'ai envie de dire. Et ça a été vraiment quelqu'un qui, très vite, à l'âge de... donc, il a appris à coder tout seul à 8 ans, et à 12 ans, il a programmé sa première encyclopédie, qui était un ancêtre de Wikipédia, qui est sorti 6 mois plus tard, avec beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de backup financier, donc il a été beaucoup plus soutenu. Mais Aaron avait 12 ans, et tout de suite, il a compris qu'Internet était un formidable outil pour l'humanité, pour son émancipation, et il s'est battu à en mourir pour ça.
Parce qu'effectivement, vous êtes parti dans un road trip où vous avez rencontré à la fois Larry Lessig, vous revenez sur votre première rencontre avec ce juriste qui est, on a l'impression, un peu l'un des seuls aujourd'hui à pouvoir, entre guillemets, impunément tenir des discours assez radicaux sur cette question de l'Internet libre. Vous rencontrez ses parents, vous rencontrez toute une foule de gens qui l'ont rencontré, notamment au MIT. Est-ce qu'on peut parler du MIT, s'il vous plaît? Parce que le MIT, c'est un petit peu, on va dire, la matrice symbolique et en même temps réelle de toute l'ère que l'on vit aujourd'hui. Il est passé par le MIT Aaron, comme ses frères, parce que c'était donc un garçon issu d'une famille très politisée, on va le dire, avec deux frères, eux aussi géniaux, sauf que lui, il a une dimension presque christique. Qu'est-ce qui se passe pour lui au MIT? Qu'est-ce que le MIT lui insuffle et que finalement elle ne sera pas capable de défendre quand plus tard il sera attaqué par la justice américaine?
Alors vous avez raison, sa famille est définitivement liée au MIT, mais plus que ses frères, c'est son grand-père. Le grand-père d'Aaron était un militant anti-nucléaire. Il a beaucoup financé et milité avec une organisation qui s'appelait Pugwash et qui dans les années 50 s'est formée avec des scientifiques de part et d'autre du rideau de fer pour militer contre les programmes d'armement nucléaire. Et le père était fasciné par la science, avait une vénération absolue pour les scientifiques, d'où cette association, et adorait le MIT, puisque le MIT était aussi, j'ai envie de dire, ange et démon. Avec
le Massachusetts Institute of Technology.
Voilà. Donc c'est l'une des plus grandes universités au monde. C'est la mecque de la science, j'ai envie de dire. Ce grand-père a vraiment, je pense, complètement insufflé ses idéaux à son propre fils et à ses petits-enfants, qui est cette idée très américaine aussi qu'il faut devenir riche très vite, entrepreneur, gagner ensuite un maximum d'argent pour ensuite sauver le monde. Mmh. Et Aaron a fait ça parce que il a aussi cofondé une entreprise qui s'appelle Reddit, qui aujourd'hui vaut 6 milliards de dollars, qui est le 10e site le plus financé, le plus visité au monde, et qui a été l'inspirateur de Facebook. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait compris aussi ce code-là.
Pour parler juste des briques technologiques auxquelles il a contribué à ce qu'on, quelque chose qu'on connaît très bien, les flux RSS. Et ensuite, donc ça c'est le côté entrepreneur, trouvailleur, c'était effectivement un garçon brillant. Ensuite, très vite, il va aussi fonder ce mouvement Demand Progress, et ça c'est en parallèle de tout ce qu'il fait, notamment contre le fameux SOPA, la loi SOPA. De quoi on parle quand on parle
Alors,
de ça?
Alors en fait, Aaron très vite se rend compte qu'il se joue sur Internet exactement les mêmes choses que s'il se joue sur la société, à savoir une attaque en règle contre la démocratie. Et il se passe dans les années 2008-2009 un projet de loi, 2010, qui vise à censurer l'Internet. Et c'est un serpent de mer de l'Internet. Ils y sont finalement arrivés, mais ça, c'est la première loi. Et tout de suite, Aaron voit que dans la censure de l'Internet, finalement, on touche à la capacité aux gens de se relier entre eux, de partager des idées, d'avoir une parole libre, intime, etc. Derrière lui, il y a toute cette Amérique en fond sonore, j'ai envie de dire, qui a évolué depuis septembre 2001, qui s'est retourné contre son peuple, qui la surveille, qui noyaute l'Internet, qui le verrouille, qui le transforme en un outil militaire. Et Aaron voit tout ça à l'œuvre. Et quand il est question de censure de l'Internet, il se lève, il entame une bataille de l'ombre, qui dure 18 mois et à l'issue de laquelle il réussit à convaincre justement tous les pères fondateurs de l'Internet. Larry Lessig n'est pas qu'un juriste, il est le père fondateur des Creative Commons, c'est une figure de l'Internet libre, mais il y a aussi Tim Berners-Lee, Jimmy Wales de Wikipédia, et ces gens-là le suivent, et c'était une bataille absolument incroyable, puisque tout le monde se fichait un peu de l'Internet, les sénateurs les premiers, ils comprennent pas bien ce que c'est, ils en ont peur, ils le maîtrisent pas, c'est la jeunesse, comme tout ce qui est la jeunesse, et ils veulent le censurer. Et Aaron éteint l'Internet pendant 2 jours. Vous l'éteignez l'Internet, alors voilà, plus aucune page Wikipédia, plus aucune page Craigslist, etc., etc. Et finalement, il arrive à faire cette organisation qui fait que Obama est submergé d'appels, 7 millions de personnes signent une pétition
et
il retourne l'arme de l'Internet contre les gouvernements. Mais c'est l'une des rares fois où ça a marché.
C'est ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous le dites dans ce livre, au-delà d'effectivement de ses engagements, sa personnalité, toutes ces personnalités dont vous venez de parler, Larry Lessig, Tim Berners-Lee, qui sont beaucoup plus âgés que lui, qui parlent de lui comme si à la fin il était devenu leur maître alors qu'il n'est mort qu'à 26 ans. Effectivement, on comprend très bien qu'avec ça, il y a une prise de conscience, notamment de la part des politiques et du président Obama, du pouvoir de ce garçon. Et finalement, son destin se cristallise sur ce téléchargement de plus de 4 millions d'articles scientifiques disponibles sur un site qui s'appelle G-Store et qui est un site d'archivage de publications scientifiques. Quand il fait ça, bon, c'est une des vraies questions, il est fidèle à son idéal finalement que, par exemple, les publications scientifiques soient accessibles par tout le monde. On sait aujourd'hui que le fait qu'elle soit publiée, on en parle souvent dans la méthode scientifique sur France Culture, que les publications universitaires le soient comme elles le sont aussi, entraînent toute une série de dérives. Il télécharge ces articles, et là, à ce moment-là, alors que c'est même plus G-Store à retirer sa plainte, alors qu'il n'a jamais publié les fichiers, qu'il a rendu les disques durs, eh bien, c'est la justice américaine, et vous racontez ça en début de votre livre, et notamment une juge, une procureure, Carmen Ortiz, clairement, on va dire, investi d'une mission par le président Obama, et qui, eh bien, l'inculpe, et lui se suicide à 26 ans, alors qu'il risque 35 ans de prison. Tout ça s'est passé en 2013, il nous reste simplement 2 minutes. 2013, c'est aussi l'année où Edward Snowden finit par révéler les écoutes de la NSA et a le destin qu'on lui connaît ensuite. Tout ça, c'était il y a 6 ans. Nous ne sommes qu'en 2019, à peine 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qui sont les héritiers de ces hommes-là?
Vous l'avez cité, le premier héritier, c'est Edward Snowden, directement. Aaron s'est suicidé en janvier, Edward Snowden sort du bois en juin. Directement, il y a l'idée que cette énergie-là, ce combat-là pour l'émancipation des populations, pour la liberté, pour la connaissance, pour l'intelligence, pour une certaine vision de l'humain et du progrès, il faut le poursuivre. Et clairement, Edward Snowden s'inscrit dans les pas d'Aaron. Il y a aussi cette jeune femme kazakh qui a repris l'idée, elle l'a fait de façon concomitante, je crois, de publier ses recherches académiques partout dans le monde. Le suicide d'Aaron a fait bouger la communauté scientifique sur ce sujet, a fait bouger l'État américain sur ce sujet. Sur la thématique de l'accès à la connaissance est plutôt quelque chose qui a progressé positivement sur cette thématique.
Mais c'est sur la nature même de ce qu'est Internet.
Sur l'Internet, sur la nature même de ce qu'est Internet, Aaron définitivement manque beaucoup, beaucoup, beaucoup au sujet, et c'est clair que l'internet libre perd, les systèmes de surveillance gagnent, la médiocrité sur internet gagne, les fake news gagnent, et on voit les pères fondateurs de l'internet, que ce soit Tim Berners-Lee, Jimmy Wales, Larry Lessig, se battre et innover chaque jour pour proposer des solutions et réparer la bête. C'est un peu Frankenstein qui s'est échappé de la table d'opération.
Et d'ailleurs, vous racontez votre rencontre avec Larry Lessig et ses regrets, parce qu'effectivement, il fait partie des gens qui avaient soutenu Barack Obama lors de son premier mandat. Merci beaucoup, Flore Vasseur. Ce qu'il reste de nos rêves, ce road trip sur les traces d'Aaron Swartz. Je voulais simplement dire qu'Aaron Swartz était aussi un homme qui écrivait beaucoup sur des blogs. Et il y a eu un très beau livre dont je n'ai plus le nom, malheureusement, qui est sorti en 2017, qui rassemble la plupart de ses écrits et qu'il est important de relire en 2019.
L'homme qui voulait changer le monde.
Merci, Flore Vasseur.
L'homme qui voulait changer le monde. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Flore Vasseur.